Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Maude Aigrin.
La télévision a-t-elle tué le cinéma ? Tel était le thème d'un colloque organisé le 18 mai dernier par l'association Démocratie Média. Le colloque s'est tenu à la Fondation Saint-Gervais-Polignac à Paris, en présence de son président, le chancelier Édouard Bonnefous. Alors, la télévision a-t-elle tué le cinéma ? La question est récurrente, à la mesure de sa complexité, tant il est vrai que les rapports entre le grand écran et le petit écran le sont également. Depuis la naissance du cinématographe des Frères Lumière en 1895, le visage du cinéma français a bien changé, un chiffre seulement. En 1910, le cinéma hexagonal représentait 85% du marché mondial, 85%, un chiffre qui laisse rêveur aujourd'hui, car le cinéma français a connu au cours du XXe siècle plusieurs crises successives. La première, lors du passage du cinéma muet au cinéma parlant. Elle date de 1927. Avec l'introduction fantastique de la parole, le cinéma français a perdu de fait son envergure internationale pour se limiter au monde francophone. Et c'est le cinéma américain qui connaissait là sa première victoire. La seconde crise date du passage du noir et blanc à la couleur. Une fois encore, c'est outre-Atlantique que le cinéma allait connaître les plus fortes avancées technologiques. Mais c'est encore un autre progrès technologique d'ailleurs qui sera le plus lourd de conséquences pour le cinéma. Il date de la fin des années 20, date à laquelle le cinéma perd le monopole de l'image au profit de la télévision. Quelques chiffres pour prendre la mesure de cette évolution, pour ne pas dire révolution. En 1956, il existait en France 440 000 postes de télévision. Le cinéma enregistrait 400 millions d'entrées par an. Aujourd'hui, il existe 35 millions de postes de télévision. Les entrées de cinéma sont tombées à 185 millions par an. En clair, depuis l'avènement du petit écran, le cinéma vit avec la télévision, contre la télévision, et nous allons le voir de la télévision, car c'est elle qui finance désormais le cinéma, avec une exigence de rentabilité bien compréhensible et une conséquence évidente. La télévision tend à concentrer ses investissements sur des films susceptibles de recueillir ensuite une forte audience lors de leur diffusion sur le petit écran. La question qui se pose est donc celle-ci: quel est le rôle de la télévision dans la production des films et son influence sur la création? Pour tenter d'y répondre, intervenants de qualité étaient conviés. Une première émission vous a permis d'entendre les propos de 5 d'entre eux. Nous vous proposons maintenant d'écouter les analyses des 5 autres. Il s'agit de Michel Fansten, administrateur de l'INSEE, Francis Ball, professeur à l'Université Paris 2, Henri Pijat, président de l'International Institute of Communication, Jean-Marc Vernier, directeur adjoint des études à la FEMIS, et enfin Jean Tullard, membre de l'Institut qui a conclu les débats. Pour commencer, nous vous proposons donc d'entendre les propos de Michel Fansten. Il est administrateur de l'INSEE. Il revient sur la place de la télévision dans l'économie de la production de cinéma.
La production d'œuvres originales françaises peut s'adosser à tout ce système et, dans ces financements qui sont l'assise de la production de cinéma, les chaînes de télévision apportent en gros les deux tiers. Aujourd'hui, les deux tiers. Donc, elles sont au centre par le financement et même par le déclenchement du processus de production, parce que pratiquement, pour avoir accès aux autres financements, il faut déjà avoir le déclencheur, qui est le plus souvent la commande de la chaîne. C'est-à-dire, un film qui voudrait se monter sans commande de chaîne aurait énormément de difficultés, c'est-à-dire que ça concerne des films qui sont des films montés dans des conditions difficiles, donc qui correspondent à, quelque part, l'âme torturée du réalisateur ou du producteur. Mais le système lui-même repose là-dessus, sur ce double apport des chaînes de télévision, apport financier et décision. Alors, les chaînes ont évidemment le choix du programme, du film auquel elles vont contribuer. Ce dispositif a été mis en place pour l'essentiel juste avant l'arrivée des chaînes privées dans les années 80 et a trouvé son plein développement avec l'arrivée des chaînes privées et le développement de Canal+. Dans un premier temps, notamment pour les chaînes privées, c'était une sorte d'impôt. pour pouvoir jouer à la télévision, il fallait donner de l'argent au cinéma. Donc, jusqu'au début des années 90, je dirais, l'intervention des chaînes dans le secteur du cinéma était un peu dissociée de leur politique de programmation. D'abord, ils consommaient beaucoup plus de films qu'ils n'en produisaient, et l'expérience montrait que ce qui marchait à la télévision, c'était des films qui avaient déjà une certaine notoriété. Si je prends, par exemple, les films qui ont bien marché en 2003 sur TF1, on va voir La Folie des Grandeurs, pour sa 13e diffusion, qui fait tout de même 40% de part de marché. 13e diffusion, La Folie des Grandeurs. Le Père Noël est une ordure, 9e diffusion sur France 2. Le Mur de l'Atlantique, 14e diffusion sur France 3. Donc, à cette époque-là, la télévision devait intervenir dans le cinéma, mais en fait, la politique de production, bon, c'était à la fois la nécessité de respecter ses obligations, les chaînes espéraient gagner de l'argent autrement, et puis un peu la danseuse. Bref, jusqu'au début des années 92, les deux sont dissociés. Et puis, à partir de 92, il s'est passé plusieurs choses. D'abord, la 5 a disparu. La disparition de la 5 a permis, comme on dit pudiquement, un redéploiement des ressources, c'est-à-dire un peu plus d'argent pour les chaînes qui se sont trouvées plus riches. Tant plus riches, elles avaient un peu plus d'argent à mettre dans le cinéma, hein, 3%, 5,5%, etc. Premier élément. Deuxième élément, il s'est passé un truc, c'est que TF1, pour un film qui était considéré comme, bon, un téléfilm, un peu mieux qu'un téléfilm, Un Indien dans la ville, ça fait un tabac en salle, et ça rapportait à la chaîne plus d'argent que ça lui avait coûté. C'est comme si, en investissant vos impôts, ça vous rapportait plus que vous ne payez. Ça donnait des idées, évidemment, à TF1, qui, à ce moment-là, a commencé à tenir compte du fait que le film pouvait aussi contribuer, non seulement au programme, mais peut-être à l'enrichissement de la chaîne. D'autant que le dispositif français, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc le CNC distribue cette manne, et une partie est sélective, c'est l'avance sur recette essentiellement, et une partie est automatique. C'est-à-dire que plus un film fait d'entrée, plus il enrichit potentiellement son producteur. C'est-à-dire, il a un droit de tirage pour le film d'après. Donc, qui a un droit de tirage, qui bénéficie des entrées dans les films, ce sont les producteurs. C'est-à-dire que quand une chaîne de télévision fait un film qui marche, non seulement ça va lui rapporter directement de l'argent sur les recettes, ça va faire un film qui, en principe, se comportera bien au moment de la diffusion, mais en plus, ça génère des ressources pour les films suivants. Donc, ça incite les chaînes de télévision, à partir du moment où elles ont compris ce mécanisme, à plutôt investir dans les films qui non seulement marchent, mais qui en plus peuvent rapporter du compte de soutien. Donc, la période 92 a amorcé une deuxième période, qui était une période où l'intervention dans le cinéma devenait un enjeu économique pour les chaînes. Pour TF1, c'est très vite. TF1 a orienté ses choix de programme en fonction de ses besoins d'antenne, en disant, pourquoi pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fait un film qui rapporte en salle et qui en plus peut marcher sur la chaîne. Hein. Si je regarde les films qui ont marché sur TF1, La Vérité si je mens, Le Placard, Les Rivières pourpres. Hein. C'est un certain type de film. Et TF1 a tout de suite senti que son public, qui n'était pas très éloigné du grand public, aimait plutôt les comédies et les films d'action, moins les films d'auteur. Donc TF1 s'est plutôt consacré à ce genre de film qui avait donc le double avantage de générer de l'argent de partout, ce qui est plutôt bienvenu quand on est une chaîne privée. Donc on va aller en 2004 assez vite pour voir comment cette intervention, donc ce système-là, a aussi fini par évoluer, par affecter, je dirais, pas tellement le contenu des films, mais l'économie des films. Sur les films français qui ont été produits l'an dernier, il y en a eu 219, ce qui est énorme. Sur ces 219, il y en a à peu près 12, il y en a exactement 12, qui ont eu un budget supérieur à 15 millions d'euros. Sur ces 12, on trouve 10 fois TF1, plus évidemment Canal+ et TPS. Une fois M6, une fois France 2. Ce sont les films que vous imaginez, les films... Bon, je vais vous en donner les noms parce que Deux frères, un long dimanche de fiançailles, Jean-Pierre Genet, Danny the Dog, Louis Le Terrier, il n'est pas encore sorti, San Antonio, Les Anges de l'Apocalypse, Double Zéro, L'Enquête Corse, etc. Donc, c'est des films, grand public, qui marcheront plus ou moins bien, mais en gros, qui marcheront bien, d'autant que TF1, qui a cofinancé ces films, fera tout pour qu'ils marchent. Hein. En plus, il aurait tort de s'en priver. Donc, il y a ce premier bloc de films, qui sont ces films qui coûtent très cher, et qui sont faits pour rencontrer un public. Il y a environ 20 à 30 films qui font 50% de l'audience, et parmi ces 20 à 30 films, la moitié vont être des films de cette catégorie. À l'autre bout, il y a les films bon marché, enfin, des films autres, qui ne sont pas des films destinés à un grand public. Il y en a un autre intéressant qui lui aussi est fait présenter à Cannes, qui est 2046. C'est un film européen dans lequel on retrouve comme coproducteur français Arte et France 3 Cinéma, qui a une caractéristique intéressante. C'est un film de Wong Kar-wai, réalisateur de Hong Kong, et dans lequel tous les interprètes sont des artistes de Hong Kong. Alors comment ce film peut avoir le statut de film européen et être comptabilisé dans les quotas européens? Alors, les producteurs français ont en effet tiré parti d'une opportunité jusque-là assez peu connue. Les citoyens de Hong Kong, qui composent l'essentiel d'équipes artistiques et techniques, bénéficient du statut de citoyen britannique non résident. Parce que là, on est confronté à d'autres types de films dans lesquels les télévisions interviennent assez peu, ne mettent pas beaucoup d'argent, et ces films ont un problème de production. Comment produire, quand on a peu d'argent, un film qui coûte malgré tout, qui a un certain coût? Eh bien, par des montages internationaux. Des montages internationaux qui expliquent que la moitié de la production européenne est une coproduction française et qu'on retrouve de plus en plus parmi les productions européennes, parce qu'on ne peut pas dire qu'elles soient françaises, des films coréens, canadiens. Les Invasions barbares est un film franco-canadien, pas très franco quand on le regarde, mais qui, dans son statut, a le statut franco-canadien. Donc, ça montre comment un système de financement qui repose au départ sur la télévision, dans un moment où la télévision décide de concentrer ses investissements sur un certain type de film, alors qu'il y a une appétence, au moins de la part des réalisateurs, des producteurs, d'une partie du public, pour un autre type de film, donne un statut très particulier à ces films d'une autre catégorie. Je terminerai en parlant de Mondovino, parce que Mondovino est un film intéressant de ce point de vue-là aussi. C'est au départ une série télé. C'est une série télé sur le vin dans le monde. Et le réalisateur a eu l'idée simple de prendre des morceaux de son film, de ses téléfilms de commande, pour en faire un film de cinéma. C'est un film intéressant.
C'était Michel Fonsten, administrateur de l'INSEE. Nous marquons une première pause avant de reprendre notre émission.
Canal Académie.
Ouvrir et découvrir les livres des académiciens, c'est ce que vous propose tous les jours Radio Canal Académie. À différentes heures de la journée, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques vous parlent de leurs écrits, notamment historiques, philosophiques et économiques. Les livres des académiciens, leurs lectures, les prix qu'ils décernent chaque année, Radio-Canal Académie leur donne la parole. Connectez-vous et écoutez. Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Académie.
On retrouve Maude Aigrin.
Nous reprenons cette émission consacrée à la télévision et au cinéma. Après Michel Fonsten, c'est Francis Ball qui a pris la parole. Il est professeur à l'Université Paris 2. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage célèbre intitulé « Médias et société ». Francis Ball revient sur les rapports entre ces deux médias que sont le cinéma et la télévision, à la fois au niveau national et international. Alors, complémentaires ou adversaires, le cinéma et la télévision ont en tout cas bien changé depuis leur première confrontation.
Ils ne sont plus ni l'un ni l'autre ce qu'ils étaient. Ils sont chacun plus abondants, ils sont chacun plus divers, ils sont chacun plus beaux. Ils font de plus en plus le grand écart entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, entre les programmes paroissiaux et puis les programmes planétaires. C'est vrai pour la télévision, c'est également vrai pour le cinéma, dans une certaine mesure. Ils subissent le double mouvement que toute industrie subit, avec un coup d'accélérateur après 1991, le double mouvement de l'internationalisation et de la concentration. Double mouvement auquel cette activité n'échappe pas. Ils ont de surcroît tous les deux tiré les enseignements de ce qui s'est passé dans le monde des médias. Un premier enseignement, parmi ces enseignements, le premier qu'ils aient tiré, c'est que les nouvelles technologies, le câble, le satellite, le magnétoscope, le DVD, etc., les nouveaux médias, le web en l'occurrence, poussaient jusqu'à un point extrême la logique du marché. Non seulement la communication est devenue une juxtaposition de marchés, un empilement de marchés, des marchés planétaires pour le Titanic, des marchés très locaux ou des marchés ciblés vers des populations définies par une identité particulière, mais de surcroît, chacun aujourd'hui, avec la prolifération des écrans, petits ou très grands, chacun peut obtenir ce qu'il veut, quand il le veut, par le terminal qu'il a choisi, fixe, ou évidemment mobile. Et puis il y a un deuxième enseignement que le cinéma et la télévision ont tiré de l'observation de ce qui s'est passé depuis ces dernières années, et notamment depuis, il faut le dire, depuis 10 ou 15 ans, c'est que jamais dans le monde des médias, le nouveau ne remplace véritablement l'ancien. Parce que c'est vrai que le nouveau ne remplace pas l'ancien, on le sait aujourd'hui, on l'enseigne, mais il y a quelques années, on ne l'enseignait pas parce qu'on n'y croyait pas, et on n'était pas cru quand on l'enseignait. Qu'est-ce qui se passe en réalité quand un nouveau venu arrive? Il commence par se nourrir, évidemment, auprès des anciens. Il les pille, il s'en inspire. Les anciens sont obligés de lui faire un tout petit peu de place. Et puis, dans un deuxième temps, après qu'ils aient été traumatisés, ils se rendent compte que finalement, ils peuvent tirer parti du nouveau venu. C'est-à-dire qu'après avoir donné un tout petit peu de place et un tout petit peu d'air et un tout petit peu de contenu au nouveau venu, en réalité, le nouveau venu ouvre des perspectives totalement inattendues, totalement inespérées, peut-être un petit peu imméritées à ceux qu'il venait concurrencer. Alors c'est très exactement ce qui s'est passé entre le cinéma et la télévision. Le cinéma a d'abord été traumatisé. Il a été traumatisé, c'est l'époque où McLuhan, souvenons-nous, croyait que Marconi avait vaincu définitivement Gutenberg. Et puis, comme vous le savez, Gutenberg est revenu, chassé par la porte, il est revenu par la fenêtre. Il a pu faire un bras d'honneur dans certaines publicités célèbres à Marconi. Il est revenu, par conséquent, en force et au galop. Et puis, après, le cinéma a été, c'est vrai, dans une certaine mesure, sauvé, entre guillemets, par la télévision qui lui offrait un débouché, la télévision qui lui offrait de l'argent, la télévision qui investissait dans le cinéma parce que c'était son avantage ou parce qu'elle y était obligée, la télévision qui coproduisait avec le cinéma et la télévision qui, ne l'oublions pas, offre une publicité, une vitrine quand même au cinéma et donne envie par conséquent d'aller voir un film que, en raison, à cause ou grâce à la chronologie des médias, on ne pourra aller voir que longtemps après. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que partout dans le monde, les relations se sont un peu normalisées, surtout si l'on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Chacun sait à peu près, au fond, le service qu'il peut attendre de l'autre, le secours qu'il peut attendre de l'autre. Et aucun ne voit dans l'autre une planche de salut, un sauveur. Chacun s'est habitué, par conséquent, à vivre, si j'ose dire, sa vie. Le cinéma simplement demande à la télévision de jouer le jeu. C'est-à-dire que j'ai un peu le sentiment que le cinéma attend de la télévision qu'elle lui offre une exposition optimale, qu'elle paie le juste prix pour utiliser le cinéma, et entre le DVD, le cinéma et la télévision, on voit bien que ce qui est souhaité et souhaitable, c'est que les œuvres circulent le mieux possible, mais il y a quand même des affinités électives, si j'ose dire. Le cinéma reste quand même le lieu des grands chefs-d'œuvre, le DVD pour ce que l'on a envie de conserver, et puis la télévision joue tantôt les grands classiques, et on voit le succès qu'ils remportent avec leurs grands classiques. Et lorsqu'il s'agit de petites chaînes, parce que la télévision, il faudrait quand même en parler au pluriel, lorsqu'il s'agit de petites chaînes, la télévision joue des programmes beaucoup plus particuliers qui s'adresse à des publics nécessairement minoritaires. Je ferai deux remarques. La première, c'est que le cinéma a plus de 100 ans, la télévision a plus de 50 ans, et le cinéma, me semble-t-il, a beaucoup moins changé, en définitive, depuis 1927, depuis Le Parlant et Chantant, que la télévision depuis 50 ans. Le cinéma est toujours à la recherche de chefs-d'œuvre, c'est-à-dire de quelque chose qui est remarquable au point d'avoir une destinée planétaire et de figurer, par conséquent, d'entrer dans le panthéon d'une culture universelle. Qu'on le veuille ou non, le cinéma est à la recherche d'œuvres, de chefs-d'œuvre, dont la destinée sera forcément universelle. Et c'est un risky business, comme disent les Américains, parce qu'on ne sait jamais ce que ça va donner, même si on y investit tout de suite autant d'argent dans la promotion que dans la production, proprement dite. Alors qu'en revanche, la télévision, globalement comparée au cinéma, la télévision, elle est la plupart du temps tournée vers l'entertainment, vers le divertissement, on passe un bon moment, mais il n'en reste pas forcément grand-chose. En très très gros, et je caricature au point que j'en ai honte, mais en très gros, le cinéma, c'est quand même la constitution d'un patrimoine, c'est du stock, et la télévision, c'est du flux. C'est du flux, et par conséquent, les deux logiques n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. On sait bien ce qu'on pense d'un film quand en sortant on dit simplement « j'ai passé un bon moment ». Ça veut dire que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Ça veut dire que la destinée du film, évidemment, ça n'entrera pas en tout cas dans mon patrimoine culturel personnel. Alors la deuxième remarque que je voudrais faire, l'exception française. S'il y a une exception française, elle réside dans le fait que chez nous, les relations entre le cinéma et la télévision sont quand même très réglementées. Peut-être trop réglementées, et je vais me hasarder à dire qu'elles sont peut-être mal réglementées. Mal réglementées pourquoi ? Ben parce que simplement, lorsqu'il s'agit de faire des ajustements au jour le jour entre deux médias, il vaut mieux avoir un seul régulateur que trois ou quatre. Et si l'on y réfléchit bien, la réglementation des relations entre le cinéma et la télévision, c'est peut-être ce qui fait l'exception française si on compare la France avec des pays qui nous sont comparables, c'est qu'il n'y a pas un pilote, il y en a deux ou trois et éventuellement quatre. C'est pas seulement au CSA que la régulation entre le cinéma et la télévision se fait, c'est aussi rue de Valois et rue de Varennes. Et rue de Varennes, il y a encore deux lieux auxquels on ne peut pas ne pas penser, la direction des médias et puis bien sûr la résidence du Premier ministre, sans compter le CNC. De telle sorte que par conséquent, la régulation n'a pas grand-chose à voir, et là j'exprime une frustration publique, la régulation à la française n'est pas comparable avec la régulation américaine entre les médias. La FCC est un petit gouvernement à l'intérieur du grand gouvernement fédéral. Je veux dire par là que la FCC est un petit gouvernement parce qu'elle a les trois pouvoirs. Elle a le pouvoir de faire la loi, dans le cadre évidemment d'une loi générale. Ça va de soi. Le Congrès fait une loi générale et il est obligé d'apporter sa bénédiction à n'importe quelle loi importante édictée, formée par la FCC. La FCC a le pouvoir exécutif et elle a aussi le pouvoir juridictionnel. Alors, exerçant les trois pouvoirs, il est beaucoup plus facile, évidemment, à la régulation américaine d'opérer ces ajustements entre deux médias qui sont quand même dans une relation de compétition, dans une relation de confrontation permanente, et au fond, de les laisser vivre chacun leur vie. Et après tout, je crois qu'il faut les laisser l'un et l'autre vivre leur vie, et c'est au public, c'est à nous, par conséquent, que revient le soin de les départager tous les deux.
C'était Francis Ball, professeur à l'Université Paris 2. La parole a ensuite été passée à Henri Pijat, président de l'International Institute of Communication. Il est revenu sur le rôle qu'a joué et que joue toujours la presse dans ce duel entre le cinéma et la télévision. Un rôle qui, vous allez l'entendre, est souvent déterminant. Henri Pijat.
Dans cette dialectique cinéma et télévision, la presse est un témoin privilégié. Je ne dirais pas qu'elle est un témoin impartial, parce que elle n'est pas en rivalité avec le cinéma. La presse, en revanche, d'où sa position sans doute d'une certaine partialité, éprouve une certaine rivalité avec la télévision, qui lui a pris une partie de son fonds de commerce. sur l'information, avec des instruments que l'on a longtemps considérés comme beaucoup plus puissants, plus efficaces. Ma première remarque, au fond, elle tient à la vision de ces deux activités que sont le cinéma et la télévision. Sauf exception, la presse, depuis l'origine, considère le cinéma comme un art et la télévision comme quelque chose d'assez peu définissable, mais qui n'est certainement pas un art. Quand vous lisez la presse, depuis toujours sur le cinéma, presque immédiatement, la presse a traité le cinéma comme elle avait traité le théâtre, comme elle avait traité la musique, l'opéra, je ne parle pas des arts plastiques, c'est-à-dire comme des œuvres de création. Alors bien sûr, de la même façon qu'il y a de la bonne et de la moins bonne peinture, du bon et du moins bon théâtre, il y a eu du bon et du moins bon cinéma, mais ce statut d'œuvre, d'art, du cinéma n'a jamais été nié par la presse. À l'inverse, la télévision n'apparaît comme une œuvre d'art, quand on regarde la presse, que de façon exceptionnelle. Quand vous lisez aujourd'hui les rubriques de télévision dans la presse, dans toute la presse généraliste, la presse spécialisée, etc., il y a assez peu de choses qui entrent dans cette logique de témoignage face à une œuvre d'art. Je crois que c'est un sujet qu'il faut méditer, car il a une grande signification. Après tout, la presse exprime d'une certaine façon l'opinion publique, l'opinion générale et l'opinion un peu plus élitiste. Elle l'amplifie aussi, elle la forme. Donc dans cette interaction, cette double position, ce double regard de la presse vis-à-vis du cinéma d'un côté et de la télévision de l'autre n'est pas un phénomène sans conséquence. On pourrait un peu pousser un peu plus loin l'esquisse de démonstration. Vous avez partout dans le monde des journaux spécialisés, écrits, des magazines professionnels ou autres, sur le cinéma. Il y en a en France, on en pense ce que l'on veut, mais ils existent. Il y en a en Angleterre, d'excellents. Il y en a aux États-Unis, plus qu'excellents. Les journaux sur la télévision existent aussi. Je ne parle pas des journaux de programme, c'est pas même des journaux qui analysent la télévision. Ils analysent de façon très intéressante l'économie de la télévision, la sociologie de la télévision, les effets sociaux de la télévision, etc. Assez rarement, pour ne pas dire jamais, la télévision en tant qu'œuvre de création. Et il y a un petit paradoxe, c'est que le domaine où la télévision est perçue de façon la plus évidente comme un art, c'est celui dans lequel la télévision devient un outil au service d'un autre art. Je pense à tout le mouvement de la peinture contemporaine que l'on classe dans la catégorie des vidéastes, c'est-à-dire l'utilisation du support vidéo et de l'outil vidéo pour faire des œuvres. Chacun sait qu'actuellement, parmi les artistes d'art plastique les plus en vogue, des gens comme Bill Viola, Bidlowski et quelques autres, on trouve des vidéastes. Au passage, la plupart d'entre eux, comme la plupart des grands peintres du XXe siècle et du début du XXIe siècle, ont utilisé aussi le support cinéma pour faire du cinéma dit d'artiste, n'est-ce pas? C'est très peu connu, ça n'intéresse que des cercles restreints, mais il est assez curieux, pour ne pas dire amusant et paradoxal, de voir qu'il faille attirer la vidéo dans un autre domaine pour qu'elle devienne un outil de création artistique. Je livre cela à votre méditation. Ça, c'était ma première remarque. Alors, ma deuxième remarque, elle est sur l'influence qu'a pu exercer la presse sur le cinéma. Alors, dans la mesure où ce qui a dominé dans la couverture du cinéma par la presse, ça a été la critique, la presse, dès l'origine, s'est posée en stimulant du cinéma. On a encore en mémoire les noms des grands critiques cinématographiques. Ils ont été un des truchements de choix, à la fois entre le cinéma et son public, pour reposer des questions, pour pousser les auteurs, les réalisateurs, les acteurs à aller plus loin. Et ils ont été également un truchement vers le public, c'est-à-dire pour aider le public à mieux percevoir un certain nombre de créations nouvelles, avec évidemment tout ce que comporte la critique, c'est-à-dire je suis violemment pour ou je suis violemment contre. Et ça, c'est un phénomène tout à fait intéressant qui n'existe qu'à l'état le plus élémentaire, me semble-t-il, en matière de télévision. Il y a bien sûr des critiques de télévision. Alors, ce phénomène, me semble-t-il, a beaucoup servi le cinéma jusqu'à une date assez récente, et il le sert sans doute encore un peu, pour la raison normale qui tient au rôle traditionnel de la presse. La presse sert à exprimer l'opinion publique, mais elle sert aussi à la construire, à la stimuler, et son rôle existe dans tous les domaines, il existe en politique, il existe en économie, il existe dans l'art, et il existe vis-à-vis de cet art particulier qu'est le cinéma. Alors ça me conduit à ma troisième et dernière remarque. Je crois que la télévision ne fait pas le même métier d'information que la presse. La télévision cultive le consensus. Elle est entrée dans une logique essentiellement commerciale, où le critère financier, le critère d'audience, le critère commercial l'emporte sur tous les autres. Nous sommes là actuellement dans un paroxysme qui tient peut-être à ce que la télévision est encore dans sa période de jeunesse. C'est encore une télévision très généraliste, elle ne s'est pas encore diversifiée, à la différence de la presse qui est plus vieille, etc. Mais on est bien obligé d'observer que cette approche de l'information par la télévision a des effets contagieux. De plus en plus, la presse est entrée dans une surenchère vis-à-vis de la télévision, en termes d'information en général. Quand vous prenez l'information politique, vous réalisez que on s'intéresse plus aux personnes qu'aux idées ou aux programmes. Quand vous prenez l'information économique, c'est le côté bagarre. Est-ce que Adventis va être mangé par Sanofi ? Et en matière de cinéma, je suis bien obligé d'observer que quand je regarde les critiques de cinéma aujourd'hui et la couverture du cinéma par les médias, on observe quelque chose de la même tendance. On s'aperçoit que, d'abord, la critique est devenue de plus en plus une promotion, à l'image de ce que fait de la télévision. Ah, cher monsieur, merci de nous faire la grâce de vouloir bien répondre à nos questions. Alors, comment s'est passé ce film ? Est-ce que l'actrice avait aussi mauvais caractère qu'on le dit ? Alors, quelle est la conséquence de cette affaire ? C'est que les critiques qui cherchent à défendre leur place s'efforcent de trouver une petite justification. Et ça conduit à un autre effet qui, je crois, est un peu dangereux. C'est la critique, je dirais, de chapelle, la critique un peu ésotérique. Elle a toujours existé. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'en fonction du journal que j'ouvre, je sais à peu près ce qu'on va dire. Les critiques de Libération, je n'ai pas besoin de les lire, enfin je les devine à la première phrase. Les critiques du Monde, selon leur auteur aussi, mais je peux dire la même chose des critiques du Figaro, etc. Et je dirais même sur la presse spécialisée de cinéma, c'est de plus en plus pointilliste, de plus en plus particulariste, au point que on entend de plus en plus un débat en disant « on ne comprend plus, il y a rupture entre le critique ou la critique et le public ». Alors en effet, et la meilleure preuve, c'est que très souvent, des films qui ont de très bonnes critiques dans la presse n'ont aucun succès. Et qu'à l'inverse, des films qui ont été éreintés par la critique dite savante ou se croyant-elle, ont un très grand succès. Je crois que c'est aussi quelque chose qui fait réfléchir. Le rôle du critique, c'est d'accepter de se tromper, c'est d'accepter de provoquer. Il faut quand même, me semble-t-il, qu'il garde un minimum de lien avec l'opinion générale ou avec une certaine fraction de l'opinion. Quand le critique ne représente plus que lui-même ou les petites confréries de critiques, nous sommes sur une mauvaise pente. Alors, j'ai le sentiment parfois qu'un certain nombre de tendances de ce genre apparaissent dans la presse. Elles me désolent parce que je crois que ça n'est pas favorable au cinéma et que ce dont a bénéficié le cinéma dans le passé, au cours des décennies précédentes, c'était justement d'une presse et d'une critique de presse qui était beaucoup plus en phase avec le public.
C'était Henri Pijat, président de l'International Institute of Communication. Nous marquons une dernière pause avant de reprendre le cours de notre émission.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous reprenons notre émission consacrée à la télévision et au cinéma. Après Henri Pijat, c'est Jean-Marc Vernier qui a pris la parole. Il est le directeur adjoint des études à la FEMIS. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Le cinéma sans la télévision ». Son intervention avait pour objectif de faire le point sur l'influence de la télévision dans le contenu des films. Une influence bien réelle qui ne peut pas être niée, mais qui souvent est trop diabolisée, car finalement, à chaque chaîne, sa politique et chaque réalisateur peut réussir à en tirer le meilleur parti. Jean-Marc Vernier.
Il a été projeté d'adapter les particules élémentaires de Houellebecq, et c'est Philippe Harel qui était le réalisateur qui a essayé de mener à bien ce projet. Et il n'a pas trouvé de financement, notamment pas de financement de la télévision. Donc là, on est sur la question qui est au cœur de notre sujet. Qu'est-ce que doit produire la télévision? C'est-à-dire, est-ce que la télévision doit nécessairement venir appuyer tous les projets qu'ont des producteurs ou des réalisateurs? Est-ce que finalement, la télévision a la possibilité aussi de faire ses choix? Donc derrière cet exemple, il y a un peu ce qu'on entend en ce moment du côté des producteurs et des réalisateurs, cette idée qu'il y a une trop grande influence de la télévision, que la télévision intervient trop dans les projets des films. Et en fait, pour essayer de mieux aborder la question de l'influence dans le contenu des films, peut-être revenir à ce que c'est que les rapports entre le cinéma et la télévision de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'on est en fait dans un rapport entre des producteurs qui ont des projets et des responsables de chaînes qui font face à ces projets-là. Et donc ce qu'il s'agit de savoir, c'est comment ce rapport se joue. Quelle est la nature de la négociation qui se joue derrière des projets? La télévision n'est pas à l'origine. Ça peut arriver exceptionnellement, mais la télévision n'est jamais à l'origine des projets de films. On est dans une logique où ce sont des producteurs qui amènent des projets à des chaînes de télévision. Donc là, c'est quel est le rapport qui va s'établir entre des producteurs et des chaînes de télévision. Et ce rapport, il n'est pas très simple, et il est même plutôt conflictuel dans son histoire. Dans ce jeu entre les producteurs et la télévision, les producteurs ont toujours un point de vue vis-à-vis de la télévision comme étant plutôt un ennemi, avec l'idée que, d'une certaine façon, la télévision doit un petit peu réparer aussi la concurrence, les difficultés que, par son développement, elle a engendrées vis-à-vis du cinéma. Et cette question du contenu des films produits majoritairement par la télévision n'est effectivement pas nouvelle non plus. C'est-à-dire que cette question du rapport cinéma-télévisuel, ça a déjà fait l'objet de débats à la fin des années 80, au moment où la fréquentation du cinéma était la plus faible. On était passé en dessous de 120 millions d'entrées et qu'on se posait des questions quant à l'avenir du cinéma en salle. Et à ce moment-là, il y a des voix qui se sont élevées du côté des producteurs en disant « mais la télévision prend trop d'impact sur les films et nous oblige à faire à ce moment-là ce qu'on appelait des faux téléfilms ». C'était plutôt une réaction des producteurs qui s'inquiétaient sur leur capacité d'indépendance. Un peu la même question qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend à nouveau des réalisateurs ou des producteurs qui disent « mais la télévision, non seulement a l'influence, mais a trop d'influence ». Donc il y a ce jeu, en fait, permanent entre les producteurs qui ont des projets et les chaînes de télévision. Alors, est-ce que c'est que du fantasme ou est-ce qu'il y a quand même une certaine réalité là-dedans? Alors, il y a un élément quand même qui fait penser que la pression s'est accrue sur les producteurs et sur les projets de films. D'une part, c'est que les télévisions ont fini aussi par se rendre compte qu'elles pouvaient gagner de l'argent dans les films de cinéma et donc de faire des films dont on pensait qu'elles pouvaient avoir une carrière intéressante en salle. Donc de mieux essayer d'être attentif aux projets en vue d'une carrière en salle. Ça, on peut se dire, même ça a pris un certain temps. On peut même être étonné que la télévision ait mis autant de temps à considérer que l'argent qu'elle mettait dans le cinéma pouvait quand même lui donner voix au chapitre. Il y a un autre élément qui fait penser que la pression s'accroît du côté des chaînes de télévision, c'est que l'audience moyenne des films diffusés en prime time baisse régulièrement depuis 5-6 ans. Ce qui a quand même aussi comme effet, de la part des responsables de chaînes, de se dire « mais il me faut que je sois encore plus vigilant parce que j'ai des films que je dois de toute façon financer ». Donc moi je veux quand même avoir des films qui vont quand même essayer de freiner un peu cette érosion de l'audience. Donc la pression d'avoir des films qui font quand même à 20h30 une audience satisfaisante est devenue encore plus forte de la part des chaînes. Donc effectivement, elles ont tendance quand même, sur certains types de projets, et c'est là où c'est difficile d'avoir une vue globale sur la question de l'influence, elles ont quand même effectivement tendance à être plus interventionnistes. Par exemple, sur des films qui comportent des scènes de sexe, ça c'est très évident qu'il va y avoir une sorte de censure qui va être faite de la part des chaînes de télévision en demandant que ces scènes-là soient en tous les cas le plus discrètes possible. Ou des scènes trop violentes, du fait que les films de moins de 12 ans sont interdits de diffusion en prime time. Par ailleurs, on est aussi dans l'idée, pour certains types de films, et dans l'idée de la diffusion à 20h30, 21h plutôt, d'avoir des films qui ne soient pas trop dérangeants quand même. C'est-à-dire qu'on a quand même des demandes vis-à-vis des sujets, d'avoir des sujets un peu fédérateurs ou des personnages plutôt assez positifs. Et donc certains projets peuvent être repoussés. Autre élément, dans l'autre sens, c'est aussi l'idée d'avoir des films qui, eux, vont faire beaucoup d'audience. Non seulement pas avoir des films qui risquent de pas faire d'audience, mais plutôt avoir des films qui font de l'audience. Donc là, dans le choix des acteurs, dans le casting. Donc là, on n'est pas tout à fait dans le contenu, mais ça a quand même un rapport avec ce qui va être à l'écran, quand même, le choix des acteurs. C'est d'avoir des acteurs dont on pense qu'ils vont avoir une notoriété telle que on pourra avoir une espérance d'audience en prime time. Donc ces éléments-là, effectivement, les chaînes de télévision en jouent plus fortement aujourd'hui. Mais elles en jouent pas sur tous les films. C'est sûr que c'est essentiellement la logique de TF1. Mais ça se fait aussi en grande partie avec l'accord des producteurs. C'est-à-dire que la plupart des films qui passent dans ce genre de négociation avec TF1, ce sont des films pour lesquels les producteurs ont eux aussi le souci que ce soit des succès en salle, donc des films qui sont plutôt sur le registre du divertissement, etc., qui sont prêts, ces producteurs-là, la plupart du temps, à rentrer dans une discussion aussi avec TF1. Donc, effectivement, il peut y avoir une influence de TF1 dans ce type de film, mais par ailleurs, ça fait partie du jeu normal de la négociation des projets. Donc, on peut pas dire non plus que c'est forcément une influence trop grande, puisqu'il s'agit en fait de films qui eux-mêmes ont déjà un souci de succès en salle. Et puis, il n'y a pas que TF1. Il y a une centaine de films qui sont produits par les chaînes généralistes. Si on prend les films produits par Arte, on va là, en revanche, avoir des films effectivement plutôt du cinéma d'auteur, mais là où au contraire, Arte va être très ouvert au projet et va au contraire plutôt essayer d'avoir des projets qui sont tout à fait novateurs, singuliers, plutôt sur le registre du cinéma d'auteur. Donc, après, il ne faut pas simplement parler de la télévision en tant que telle, mais aussi des politiques de chacune de chaînes. Et puis si on prend France 2, par exemple, on a pris les deux extrêmes, TF1 et Arte, bah France 2, il est un peu sur les deux registres. France 2 a besoin d'avoir des films qui vont faire du succès en salle, avec une espérance d'audience en première partie de soirée, mais va aussi intervenir sur des films qui sont des films tout à fait singuliers, sur lesquels France 2 va pas intervenir. Personne ne dit à Kusturica ce qu'il doit faire, ça c'est très clair. Donc aussi, les chaînes de télévision, selon les types de projets, elles vont plus ou moins avoir une politique d'intervention. Donc la question est complexe. Donc la réponse est, sur certains types de projets, bien évidemment, la pression s'est accrue, mais c'est plutôt les projets qui ont des visions, je dirais, d'espérance en salle de succès, des projets qui visent plutôt à avoir une bonne notoriété pour l'audience à 21h30, mais il y a tout un ensemble d'autres projets qui ne sont pas dans ce type de profil-là et sur lesquels les chaînes interviennent nettement moins. Dernier point, pour expliquer pourquoi aussi les producteurs disent aujourd'hui que la pression s'est accrue, c'est qu'il y a un phénomène qui s'est produit aussi dans la production de films français, c'est que le volume global de production de films a fortement augmenté en 4-5 ans. Il faut savoir quand même qu'on est passé en gros de 150 films produits par an à plus de 200 films produits par an en 4-5 ans. Sans que, en parallèle à ça, les financements aient augmenté dans la même proportion. Donc ça comme une conséquence mécanique, qu'il y a quand même plus de projets de films qui se font refuser par les chaînes de télévision. Donc l'idée, c'est que les chaînes sont plus sévères, mais ce que les producteurs oublient de dire, c'est qu'ils leur présentent plus de projets aux chaînes. Donc les chaînes prennent à peu près toujours autant de projets, sauf que, par un effet un peu mécanique, elles en refusent plus. Donc il y a l'idée aussi que la pression s'est accrue, en oubliant de dire que par ailleurs, on produit quand même beaucoup plus de films.
C'était Jean-Marc Vernier, directeur adjoint des études à la FEMIS. Vous l'avez entendu, les débats de ce colloque, dont le titre, rappelons-le, était « La télévision a-t-elle tué le cinéma ?». Les débats donc étaient aussi riches qu'animés. Pour conclure ce colloque, il fallait encore tenter de répondre à une question d'importance. Comment le cinéma français pouvait-il élargir son public en France et en Europe ? L'élaboration d'une réponse a été confiée à Jean Tullard, il est membre de l'Institut.
Un premier effort a été tenté, il faut le dire, au niveau des salles. Fini ces complexes des débuts où un seul opérateur assurait le fonctionnement de plusieurs salles et oubliait d'éteindre les lumières dans l'une, de faire le point dans l'autre et de régler le son dans une troisième. Beaucoup d'entre vous ont vu un film russe admirable, Le Cercle des Intimes, qui vous révèle que Staline, grand cinéphile, et même très grand cinéphile, puisqu'il adorait les Tarzans avec Johnny Westmuller, Staline exigeait des projections impeccables. Malheur aux projectionnistes, il y avait le moindre flou, une déportation en Sibérie ou une balle dans la nuque sur ordre de Beria, lui apprenait à faire bien son métier. Rappelez-vous, dans Le Cercle des Intimes, on fait venir pour une projection de toute la ville d'Anse de Duvivier le meilleur projectionniste de Moscou qui est là, complètement concentré sur son travail. Il arrive à une projection impeccable et on tape à la porte, il va ouvrir et il voit un des agents de Beria qui est là et qui lui dit « Le camarade Staline veut te voir ». Alors il se réeffondre. Et il arrive dans la salle de projection où sont Beria, Molotov, Malenkov, enfin tout ce que vous voulez, et Staline, qui lui dit « Camarade projectionniste, prendras-tu un verre avec moi ?»« Oui, » dit l'autre. « Oui, camarade Staline. » Donc on lui sert un verre et il est comme ça. « Camarade Staline lui dit « Tu veux trinquer avec moi ?»« Oui, oui, camarade Staline. » Et Staline lui dit « Mais... « Je ne comprends pas pourquoi ta main tremble-t-elle » Et le projectionniste répond « C'est, camarade Staline, que c'est la première fois que je te vois. » Et Staline lui répond « Mais moi aussi, et ma main ne tremble pas. » Eh bien, le jour où les projectionnistes trembleront à la fin d'une séance et lorsqu'on leur proposera un verre, auront la main vraiment agitée d'un tremblement nerveux, alors... Évidemment, le cinéma retrouvera certainement des spectateurs. Il faut dire et saluer l'effort de beaucoup de maires en province et en banlieue qui ont compris que l'on pouvait faire du cinéma un lieu de sociabilité. On a parlé même de, j'allais parler de confiserie, on a même parlé de la vente de DVD dans les salles de cinéma. C'est-à-dire d'en faire un lieu de rencontre, ce qui, pour une jeunesse désœuvrée, dans certaines villes de province, dans certaines banlieues, peut redonner au cinéma, vous le voyez, une importance. Mais ça, c'est la salle, c'est le spectacle cinématographique, reste le film. Que privilégier comme film si l'on doit en privilégier ? Si nous considérons les recettes de 2003, y trouverons-nous des indications ? Eh bien, le plus gros échec a été Lovely Rita, Rita Sainte Rita, patronne des causes désespérées, pour la première fois a failli. Elle n'a pas sauvé le film de Stéphane Clavier avec Christian Clavier, ça faisait peut-être trop de Clavier, et pour... un budget de 13 millions d'euros, 104 653 entrées. Ça signifierait donc que les comédies, le public ne les aime pas. Ah oui, mais malheureusement, Chouchou, immortel chef-d'œuvre d'Alouache, a fait 3 876 578 entrées pour un budget modeste de 7 millions d'euros. Faut-il privilégier la qualité ? Eh bien, malheureusement, Monsieur N, un film sur Napoléon à Sainte-Hélène, salué par tous les historiens dont je suis, pour la qualité de la reconstitution, n'a attiré que 198 000 spectateurs, moins que le tombeau de Napoléon aux Invalides, pour un budget de 16 millions, alors que le tombeau n'est amorti depuis longtemps pour le gouverneur des Invalides. Faut-il faire reposer tout sur les acteurs, on en a beaucoup parlé, eh bien, Depardieu, Adjani, Virginie Ledoyen et une dizaine d'autres vedettes réunies dans Bon Voyage de Rapneau, un nom. 796 730 entrées, mais pour un budget de 27 millions, les stars coûtent cher, non amorties, perte pour l'infortuné Luc Besson, 24 millions. Jeanne d'Arc, pour une fois, n'est pas venue à son secours. Alors, le sujet, dira-t-on, eh bien, Michel Vaillant, héros de bande dessinée que connaissent tous nos enfants, aura eu, en définitive, moins de spectateurs que de lecteurs. Importe-t-il de placer ses espoirs dans la critique ? Effectivement, beaucoup de films sont tournés en fonction de ce que penseront certains critiques dont on croit qu'ils feront le succès de l'œuvre. En réalité, comme on l'a dit, c'est fini le temps où Truffaut tuait, au sens propre, autant Lara, Duvivier ou Delannoy, ce temps est révolu. Alors, l'éducation du public, là, est peut-être l'une des solutions. Il manque une émission à la façon de Bouillon de culture de Bernard Pivot qui, tout en soulignant l'alliance forcée du cinéma et de la télévision, aiderait à analyser un film, à comprendre un film. Les émissions de télévision consacrées au cinéma relèvent du marketing. Un petit extrait bien choisi, trois gloussements d'admiration, et on passe à la séquence suivante. Tout est mis sur le même plan, du film ambitieux au film gore, sans la moindre distinction, sans le moindre effort pour expliquer un film, sauf par son auteur, qui ne peut évidemment qu'en dire du bien, sous peine de dracuser de sadomasochisme. Donc, il manque ce qui a un temps très bref existé, mais pour un genre précis, qui était la dernière séance, où l'on voyait Eddie Mitchell analyser de façon extrêmement vivante. Et depuis que la dernière séance a disparu, le western est mort, les quelques tentatives sympathiques pour le ressusciter avec deux films récemment ont abouti à des échecs parce que personne ne s'est donné la peine d'expliquer que Les Disparus c'était une variante de La prisonnière du désert de John Ford, etc., etc. Dernière solution, l'Europe et l'élargissement des échanges entre les États. Mais alors là, l'Europe, comment échapper au contrôle tatillon de la commission de Bruxelles, qui paralysera tout, d'ailleurs sentant le danger, le gouvernement français a fait inscrire le système de protection du cinéma dans les domaines relevant de l'unanimité européenne. Et, en parlant de ces systèmes de protection, nous voilà revenus à la commission d'avance sur recette. Alors, il faut terminer. Comment élargir le public du cinéma français? Comment élargir ce public? Et il est étonnant que personne n'y ait encore pensé. Adossé à ce fort imprenable, à cette ligne Maginot qu'est la protection du cinéma, imaginons un cinéma français lancé à l'assaut, non pas du public français, laissons-lui les Gérard Houry et M. Batignolles, non pas à l'assaut d'un public européen trop divers et trop blasé, mais lancé à l'assaut du public chinois. Et déjà, il y a eu une première tentative, une timide offensive, 1 milliard de spectateurs lancés à l'assaut du public indien. Le public indien, voilà un public d'un haut niveau, qui a une culture cinématographique, qui a sa propre production et qui serait très apte à apprécier notre cinéma. Et enfin, le public africain. Des millions de spectateurs, et je devrais dire des milliards, sont prêts à déshabiller Sophie Marceau du regard, bien entendu, ou à admirer les rondeurs de Gérard Depardieu, né de l'acquisition de son dernier restaurant, et à faire au cinéma français un triomphe. Vous le savez, ce n'est pas gagné. Mais les colloques sont faits, et j'en ai fait beaucoup, pour émettre des vœux pieux ou laisser la place aux rêves. Eh bien, avec le cinéma machine à rêver, eh bien, avec cette machine à rêver, rêvons.
Voilà, il fallait bien des applaudissements à la hauteur de l'énergie de l'orateur. C'était Jean Tullard, membre de l'Institut. Alors finalement, la télévision a-t-elle tué le cinéma? On retiendra surtout que la télévision, comme le cinéma, est plurielle. La réponse à cette question se devait donc d'être nuancée.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.